Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, une émission où on résume toute l'actu du jeu vidéo, de l'industrie du gaming. On parle de PC, de consoles et de mobiles. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui je fais un épisode tout seul, un petit peu plus court peut-être, raison d'emploi du temps et autres. Bref, ça va être un épisode en solo. J'espère que vous passerez tout de même un bon moment en ma compagnie, surtout qu'on a des sujets intéressants à traiter. Je vais vous parler de Divinity Original Sin 2, de Iron Marines, une petite update sur Destiny 2, des news sur un mode sans combat sur Assassin's Creed, le succès de Fortnite Battle Royale et plein d'autres choses. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va se lancer dans les news. Je vais quand même prendre une petite seconde pour boire. De monter un peu chaud, parce que figurez-vous que je suis encore malade, donc je risque d'être interrompu par des quintes de toux intempestives. J'espère que ça aussi, vous me l'excuserez. Commençons donc avec Divinity Original Sin 2, que j'ai testé donc après mes discussions et la lecture des impressions absolument dithyrambiques sur le jeu. Je pense que... Oula, et ben ça commence bien. Pardon, je pense que c'est l'un des jeux les mieux notés de l'histoire du jeu PC, possiblement. Et en fait, je j'ai pas pu résister. Je me suis dit, il faut que je le teste, il faut que je vois ce que ça donne, parce que il était tellement bien noté, tellement, enfin, le fantasme du jeu de rôle papier retranscrit avec ses millions, son infinité de possibilités en jeu vidéo, c'était vraiment quelque chose qui me parlait. Donc, je me suis précipité sur Steam, j'ai sorti le portefeuille et j'ai installé Divinity Original Sin 2. Et je dois avouer que après... je sens que ça va être un épisode compliqué à terminer. Pardon, donc par avance. Donc... j'y ai passé quelques heures et je dois avouer que je suis un petit peu, comment dire, je crois que je vais dire des choses un petit peu hérétiques, qu'on va venir me retirer ma carte de joueur PC, parce que j'ai pas réussi à vraiment rentrer dans le jeu. C'est un petit peu spécial parce que je reconnais les incroyables qualités qu'a le jeu. Et vraiment, Dieu sait qu'il est bien conçu et qu'il est vaste et complexe, et, etc. Mais j'ai au-delà de la qualité de conception technique, j'ai été un petit peu rebuté par deux aspects du jeu. il faut « The show must go on ». Donc, j'ai été rebuté par deux aspects du jeu. Le premier, c'est la partie vraiment, comment dire, la partie combat, vraiment la partie gameplay qui est bien et complexe, mais dans laquelle on ne nous facilite pas la compréhension si on est vraiment un débutant. J'ai l'impression que c'est un jeu qui est génial pour les gens qui connaissent déjà le genre, mais pour les gens qui connaissent pas, ben c'est un petit peu on te lance dedans et démerde-toi. On a assez vite, pour ceux qui connaissent pas le type de jeu, donc c'est on gère une équipe et le combat c'est du tour par tour. Donc on va avoir la série de personnages qui va pouvoir faire des actions. On a des points d'action et chaque action va prendre un certain nombre de points. Si on se déplace, si on fait un sort, si on fait un coup spécial, etc. Sauf que moi, j'ai évidemment, je me suis dit, je vais prendre les personnages classiques et je vais prendre un groupe équilibré avec un lanceur de sort, un combattant au corps à corps, etc. Et là, je lance un sort qui met du pétrole partout. Et puis ensuite du feu, comme ça, je me dis réaction logique, pétrole prend feu, enfin oui, l'essence prend feu, et ça va brûler mon ennemi, ça va ajouter un dégât de choc et puis un dégât sur le temps, etc. Sauf que mon combattant corps à corps étant à côté, eh ben il se met à brûler aussi. Et alors j'imagine qu'il fallait, je suis sûr, il y a des gens qui jouent au jeu qui vont rigoler parce qu'ils vont se dire mais enfin Patrick, il fallait faire comme ci et comme ça. Je suis sûr que quand on comprend, c'est bien, mais pour un débutant, les combats étaient vraiment hyper durs dès le début. Et certaines personnes m'ont dit bah passe en mode super facile. Là, je suis au mode normal, c'est-à-dire qu'il y a un mode touriste, je sais plus comment il s'appelle, mode aventure, et le mode juste après, c'est le mode normal. Et après il y a deux modes de difficulté supplémentaires. J'ai pas non plus envie de passer en mode narratif, parce que si je veux un jeu narratif, bah, il y en a d'autres qui le font mieux. Je vais aller jouer à Uncharted ou un truc comme ça, et ça va être plus simple. Alors que, donc, là, si je veux apprécier ce jeu, je veux aussi apprécier le système de combat. Et vraiment, on n'est pas aidé par les mécaniques du jeu et le design des premières expériences. Et donc ça, déjà, ça m'a rebuté. Pour l'histoire, il faut avouer que la narration est très bien faite. Tout est lu. Il y a d'ailleurs un narrateur qui fait un petit peu le rôle du maître du jeu, qui explique ce qui se passe, qui dit là, qui décrit les réactions des personnages. Donc, il va dire un tel se gratte la tête un petit peu nerveusement et puis il se retourne vers vous et il vous dit blablabla. Et tout ça est lu. Il y a des heures et des heures de contenu audio. C'est vraiment le genre de jeu dans lequel on peut se plonger et se laisser complètement engouffrer dans l'univers du jeu. Sauf que le fantasme de liberté totale, ah oui, je vais préciser quand même, il y a des histoires hyper intéressantes pour chacun des personnages préécrits. On peut aussi créer son propre personnage, mais il y a des histoires qui sont toutes intrigantes et qui sont toutes complexes. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste bon bah voilà, ça c'est le guerrier, il est méchant et c'est tout. Non, chacun a différents côtés au personnage. Il y a par exemple une barde qui est hyper connue, c'est un petit peu la star de la pop du monde médiéval en question, et du monde médiéval fantastique, sauf qu'elle a une sorte de démon dans la tête qui la pousse à faire des choses, et on ne sait pas pourquoi, d'où il vient, d'où viennent ses voix, etc. Et donc, même ce personnage du barde qui aurait pu être marrant en tant que star de la pop de ce monde-là, eh ben ils ont quand même rajouté un truc en plus qui fait que c'est un personnage intéressant. Donc tout ça, ça laisse présager d'une aventure assez captivante. Sauf que l'une des premières grosses quêtes qu'on a, il faut aller trouver le responsable d'un vol pour libérer un des personnages qui a été accusé à tort. Et j'ai cherché à peu près partout, quoi. J'ai parlé, j'ai tourné dans le camp pendant une demi-heure en cherchant des indices sur le véritable responsable de ce vol. Et au bout d'un moment, enfin, j'ai vraiment parlé à tout le monde, et j'arrivais pas à trouver les indices qui m'indiqueraient qui c'était. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Ça a duré peut-être, je sais pas, 45 minutes à parler. Il doit y avoir une vingtaine de personnes à qui on peut parler, peut-être un peu plus, mais enfin, j'ai parlé à tout le monde. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je suis allé regarder sur Internet et ça m'a dit où était le personnage. Enfin, j'ai trouvé la solution de la quête. Mais enfin, vraiment, il y avait aucun moyen d'aller trouver le personnage. Surtout que le personnage en question qui avait volé les vivres du type du boss du camp, eh ben, il y avait un des personnages qui peut rejoindre notre équipe qui était embusqué pas loin de lui et qui dit « Ah, celui-là, il faut que je le chope !» Et on lui parle un petit peu, donc, à la personne qui est embusquée. Et elle nous dit « Ah, lui, c'était la personne, enfin, le lézard qui me tenait en esclavage. Donc, je vais aller le choper un moment. » Et donc, moi, je me dis « Ah, cool, c'est son histoire, elle a l'air intéressante. Je vais l'intégrer à l'équipe et on va aller le faire. » Sauf que pour se séparer d'un des membres qu'on a déjà dans l'équipe pour faire de la place pour elle, expliqué nulle part. Donc en fait, j'ai fini par trouver, mais entre-temps, je me disais, alors attends, il faut pas que j'aille voir le personnage en question avant qu'elle soit dans mon équipe, parce que en plus, elle nous dit, ah, surtout, tu vas pas le prévenir, hein, tu vas rien lui dire, parce que sinon, c'est moi qui dois le choper, etc. Et du coup, je me disais, bah ok, je vais pas aller lui parler avant de l'avoir. Enfin bref, donc je me suis retrouvé coincé dans une situation où j'arrivais pas à me sortir de cette quête, alors que, enfin, et surtout, il n'y avait pas d'indication pour voir comment en sortir. Et j'ai trouvé ça hyper frustrant, en fait. Et je comprends le fantasme de la liberté totale, mais peut-être que c'est moi qui ai eu une mauvaise expérience avec ces quelques quêtes. J'ai quand même passé, je sais pas, peut-être 3-4 heures sur le jeu, donc bon, j'ai passé un petit moment. Et je vois pas, dans le système de combat, je comprends pas comment arriver au fun du jeu. Ça m'a fait penser un petit peu à XCOM. Je vous avais parlé de XCOM et de Mario et Rabbids il y a quelques semaines. Et XCOM, je l'avais essayé plusieurs fois et j'arrivais pas à... C'était trop différent pour que moi je comprenne le fun du jeu. Pourtant, j'avais essayé un petit peu. Et Mario et Rabbids, c'est de l'aveu de tout le monde, vraiment ces systèmes de jeu stratégiques, de jeu au tour par tour tactique, mais ils vous présentent les concepts de manière assez progressive et accueillante, je dirais, c'est le terme que je vais retenir, pour vous exposer le fun du jeu. Et c'était pas le cas dans les XCOM. Là, j'ai un petit peu la même impression. C'est que il y a des systèmes hyper complexes, hyper intéressants là-dedans. Il y a des systèmes de quêtes, de narration qui sont dans lesquels j'ai envie de m'immerger. Mais le truc ne m'accueille pas, en fait. Donc voilà, j'ai été un petit peu frustré par cette expérience. Je reconnais largement les qualités du jeu qui sont absolument évidentes, mais je pense que c'est peut-être pas un jeu pour moi. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont entendre ça, qui vont crier à l'hérésie et qui vont vouloir comme je disais, me reprendre ma carte de membre de la PC Master Race, mais bon, et je suis vraiment heureux que ce jeu existe et qu'il y a des gens qui l'apprécient, et Dieu merci, on n'aime pas tous les mêmes jeux, et je suis sûr qu'il y a des jeux qui moi me plaisent, qui vous parlent moins, hein, c'est normal. Heureusement qu'on a tous des goûts différents, mais bon voilà. Donc je voulais vous faire vous livrer mon impression sur Divinity 2. Et si vous avez des choses à dire à ce propos, surtout n'hésitez pas à venir me laisser des remarques sur Twitter, sur Facebook ou sur le blog de l'émission. Vous savez où vous pouvez aller pour ça. Je voulais vous parler aussi d'un autre petit jeu de stratégie en temps réel, ce coup-ci, qui est sur mobile. Alors, je parle pas souvent de jeux mobiles, et donc, après avoir parlé d'un des meilleurs jeux PC de l'année, je vais vous vanter les mérites d'un jeu mobile, donc là, je vais finir d'achever ma crédibilité auprès des joueurs hardcore du monde entier, mais vraiment, c'est un jeu d'assez bonne qualité, c'est un jeu qui s'appelle Iron Marines, qui est un jeu de stratégie en temps réel qui singe un petit peu StarCraft, voire même beaucoup. C'est un jeu développé par Ironhide Games qui ont fait des jeux que vous connaissez peut-être, des jeux de Tower Defense qui s'appellent, que je vous dise pas de bêtises, qui s'appellent Kingdom Rush, voilà, et qui était déjà très très bien. C'est parmi les meilleurs jeux de Tower Defense du mobile. Et là, Iron Marines, ils ont poussé le concept un petit peu plus loin. Et ils ont intégré, en fait, bon, c'est évidemment pas aussi complexe qu'un RTS PC, mais par contre, ils ont réussi à bien adapter la chose pour que ça soit agréable à jouer sur mobile. On n'a pas 10 millions d'unités à contrôler en même temps. Ça se compte sur les doigts d'une, limite deux mains, le nombre de groupes qu'on a à contrôler en même temps. Il y a un personnage, un héros spécifique qui a des pouvoirs particuliers, etc. Et il y a des choix assez malins, comme par exemple si on achète une unité, on va pouvoir changer le type d'unité on the fly, donc pendant la partie, on va cliquer sur l'unité, dire qu'on veut changer, ça va peut-être coûter un petit peu de ressources, mais on va pouvoir changer pendant la partie. Donc ça veut dire que on n'a pas besoin d'avoir plein d'unités sur le terrain pour pouvoir répondre à toutes les situations. Donc ça permet de s'adapter au contrôle au doigt avec un écran un petit peu plus petit, en ne réduisant pas la portée tactique du truc. Il y a un nombre de ressources assez limité. Donc en fait on n'a qu'une ressource tout simplement, et puis on n'a pas vraiment à aller les miner, en tout cas au début, là où j'en suis. Et du coup ça rend un jeu assez facile à contrôler, assez intelligent, et qui retranscrit bien les impressions d'un RTS, on va dire RTS version simple, version mini quoi. Et c'est assez rare que je recommande des jeux mobiles, parce que je trouve que souvent ça tend un petit peu trop vers, bon vous connaissez les principes, hein, le free-to-play et puis les jeux à énergie, etc. Là, il y a des petits éléments de jeux, comment dire, de vente de microtransactions dans le jeu, mais enfin vraiment, c'est pas nécessaire du tout. Et le jeu en lui-même est vraiment un jeu de qualité avec un game design intelligent. Donc, et c'est même plus, ça plaira peut-être plus, je pense, aux entre guillemets core gamers, aux vrais joueurs, que même des jeux comme Clash of Clans ou Battle Royale, qui eux aussi sont des jeux très bien conçus avec du vrai design intelligent, du game design vraiment intelligent. Mais là, c'est, enfin, disons que Clash of Clans, ça pousse un peu vers la répétition à l'infini. Là, Iron Marines, c'est une expérience de jeu tout court. Donc, comme je disais, c'est rare que je recommande un jeu mobile, mais celui-ci, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Il est disponible sur iOS et Android. Il coûte 5€, je crois, quelque chose comme ça. Donc, je vous le recommande avec beaucoup de sincérité. Je pense que c'est un très bon RTS, et c'était pas évident de faire un RTS sur mobile qui fonctionne. Et là, ils ont réussi ce pari, donc ça vaut le coup de le mentionner. Une petite mise à jour sur Destiny 2. Comme je le disais en début d'émission, on arrive d'ici 2 semaines à la sortie PC, donc je me suis dit que ça serait pas mal de mentionner rapidement le fait que de nombreuses personnes disent que Destiny 2 et un petit peu, comment dire, qu'ils ont fait le tour de Destiny 2 au bout de 2 semaines de jeu, et qu'ils n'arrivent plus à progresser. Donc, je voulais parler de la chose, et j'avoue que moi aussi, je suis arrivé à une sorte de barrière beaucoup plus vite que dans Destiny 1, parce que la progression est assez rapide et très satisfaisante, mais on arrive au bout d'un moment à un niveau de puissance dans le jeu où les seuls moyens de gagner encore en puissance, vraiment les seuls moyens tout court, c'est les quêtes hebdomadaires. Et les quêtes hebdomadaires prennent à peu près, on va dire 3 heures de jeu, 3-4 heures de jeu. Et après, c'est terminé. Et du coup, on ne peut plus progresser. On a un peu l'impression, vous savez, dans ces jeux infinis, ces jeux de loot, on dit souvent que si on joue, c'est pour gagner en puissance, et on joue pas pour le fun, quoi. Le fun, c'est s'amuser en jouant à un jeu, c'est pour les débutants, c'est pour les idiots. Nous, on joue pour uniquement si on a du loot, évidemment. Et là, bon, c'est évidemment caricatural, mais c'est un petit peu cet aspect-là qui se ressent assez vite dans Destiny 2. Et il faut préciser, hein, je dis assez vite, vous l'avez compris, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Destiny 2. Je crois que je sais pas, à la louche, je dirais, je dois avoir joué 100 heures sur Destiny 2. Donc, d'ici à ce qu'on ait joué 100 heures, on a le temps d'avoir complètement torché le jeu. Et on peut en plus se faire d'autres personnages, d'autres classes si on veut un petit peu de rejouabilité. Donc je continue à dire que c'est un jeu absolument incroyable. Il est clairement hyper réussi et il offre des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. Et il y aura certainement des trucs qui vont amener en plus dans le jeu avec les prochaines mises à jour. Oui, entre parenthèses, il y a aussi le raid que je fais pas trop, qui propose des trucs supplémentaires, mais vraiment dans ces jeux de loot, il y a un truc dont il faut toujours se souvenir, c'est que le truc le plus compliqué dans ces jeux de ce type, c'est pas de faire un bon jeu. Enfin si, c'est déjà très très compliqué de faire un bon jeu. Mais la partie la plus complexe, c'est surtout de donner aux joueurs des raisons de continuer à jouer quand ils ont, entre guillemets, fini le jeu. C'est-à-dire quand ils ont consommé tout le contenu qu'ils ne vont pas répéter. Et une fois qu'on arrive à ce moment qu'on a dans tous les jeux de ce type, hein, que ce soit Diablo, Borderlands... World of Warcraft, Destiny, etc. Eh ben, il y a un moment où il faut motiver les joueurs à refaire le même contenu. Et là, c'est hyper compliqué. C'est là que ça devient difficile de le faire sans que les joueurs ne s'emmerdent et ne trouvent que ça devienne répétitif et barbant. Et en l'occurrence, je trouve que Destiny 2 est un petit peu boiteux sur à ce niveau-là, une fois qu'on atteint cette limite qui, encore une fois, est des dizaines et des dizaines d'heures de jeu. C'est vraiment, on a de quoi s'amuser. Et entendons-nous bien, je continue à jouer à Destiny avec beaucoup de plaisir et même à faire des petits strikes, des événements publics, etc. Même si ça ne m'apporte, je sais que ça n'a quasiment aucune chance de m'amener un objet qui me servira. Eh ben, je le fais quand même parce que le jeu est fun. Mais je le fais peut-être moins que s'il y avait toute cette motivation du loot en plus au-delà de la puissance que j'ai déjà atteint. Donc là, je suis à peu près au niveau de puissance 300, 301, quelque chose comme ça. Ça parlera aux gens qui jouent. Donc on est le max, c'est 305. J'y serai d'ici une ou deux semaines, même sans faire de raid. Donc voilà, je voulais le mentionner pour les gens qui sont curieux de savoir s'ils veulent investir dans Destiny 2 ou pas. Encore une fois, le jeu reste l'un de mes concurrents pour le jeu de l'année. Il est hyper, hyper bon et je l'adore. C'est juste que si on est honnête, il faut quand même mentionner cette chose-là. Bon, passons maintenant à nos petites news un petit peu plus rapides. Je vais mentionner la sortie de Cuphead que j'ai pas eu le temps d'essayer, mais qui est, d'après l'avis de tous, un très bon jeu et surtout très difficile. C'est-à-dire que à ce niveau-là, on n'est pas surpris. On s'attendait à un jeu difficile, il est difficile et il est comme prévu un jeu de plateforme run and gun plutôt que juste un boss rush. Et voilà. Donc si c'est le genre de truc que vous appréciez et qui vous parle, je pense que Cuphead, ça sera votre tasse de thé. Pardon. Si c'est pas votre tasse de thé, justement, ça sera pas pour vous, parce qu'il est vraiment difficile, c'est confirmé. Et au niveau graphisme, j'ai presque l'impression qu'on l'a tellement vu durant les trois dernières années que, on le connaît déjà. Donc, le choc positif du graphisme, s'il l'avait sorti il y a, il y a 2 ans, après 1 an de teasing, ça aurait été plus motivant que maintenant. On l'a vu tellement de fois, on sait que les graphismes sont incroyables presque. C'est genre, on sait quoi. Donc, Cuphead en tout cas, très certainement un excellent jeu pour les amateurs du genre. On a eu une news sur Assassin's Creed Origins qui va avoir un mode zéro combat qui arrive l'année prochaine. Alors, il sera pas disponible au moment de la sortie du jeu, qui arrive le 27 octobre, oui, c'est la date de folie où il y a Wolfenstein 2, Assassin's Creed Origin et Mario Odyssey, c'est le 27 octobre. Et donc, c'est vraiment un truc intéressant qu'il pousse dans ce jeu-là, c'est ce mode zéro combat qui sera une sorte de mode d'exploration avec peut-être même de la narration historique qui va vous permettre simplement de visiter l'Égypte antique et d'avoir des informations nombreuses sur l'environnement dans lequel vous jouez dans le jeu lui-même. C'est un truc qui fait complètement sens dans la série Assassin's Creed qui est tellement bercée dans l'aspect historique qui a un aspect historique hyper fort. Et Et j'espère qu'ils vont réussir leur coup parce que il y a un aspect, enfin une opportunité de rendre l'histoire intéressante, vraiment l'histoire au sens académique intéressante, qu'il serait hyper bah positive de fructifier dans ce jeu-là. Donc moi j'ai toujours l'impression que c'est un aspect un petit peu particulier d'Ubisoft qui fait les choses de manière un tout petit peu différente des autres gros éditeurs de ce monde merveilleux du jeu vidéo. Mais bon, donc voilà, moi je suis très curieux d'avoir plus d'informations sur ce mode. J'espère que ça sera pas juste on se balade dans la carte d'Assassin's Creed et puis il y a des trucs où on peut cliquer et ça fait jouer ça affiche un mur de texte qui va vous expliquer ce qui se passe ici et là. Là, il y a un potier qui fait des poteries. Ok, super. Donc, bon, on verra comment c'est fait, mais si c'est fait de manière vraiment à mettre à profit le média jeu vidéo, ça pourrait être hyper intéressant. Un petit peu de thé en plus. Et on continue avec le trailer de Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2, qui a donc été teasé par le compte de Rockstar, le compte Twitter de Rockstar. Et alors comment dire ? Encore une fois, je reste convaincu que Red Dead Redemption 2 va être un jeu qu'on va tous attendre, qui va être super bon, etc. J'avoue que le trailer, dans la stratégie de communication, m'a un petit peu déçu, parce que c'est juste 90 secondes, donc on n'y voit vraiment pas grand-chose. Il y a des décors, des panoramas d'une beauté à couper le souffle, mais à part ça... Les animations, je les ai trouvées un poil raides. J'ai pas trouvé que les personnages avaient beaucoup de charme. J'ai pas trouvé que on comprend rien du gameplay. En fait, on voit très très peu de gameplay. Les animations faciales, ben, on est dans une époque où Naughty Dog fait tellement bien et d'autres même, mais surtout Naughty Dog font tellement bien que là, j'ai pas trouvé ça bluffant. Et puis c'est encore un super méchant qui est un anti-héros. C'est genre vraiment un type juste méchant, alors que ce qui était charmant, ce qui avait du charme dans Red Dead Redemption 1, c'est que John Marston, c'était une histoire de rédemption. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus Grand Theft Auto, genre juste un méchant qui est méchant. Et... Bon, je sais pas, on verra, mais dans l'ensemble, moi, j'aurais aimé, en tout cas, voir un petit peu plus, avoir, je sais pas, 5 minutes des développeurs qui parlent, qui expliquent les systèmes, qui... Là, ils tirent un peu sur la corde. On dit tout le temps, bah oui, Rockstar, ils peuvent se permettre de faire une image et tout le monde devient fou, une image rouge avec un logo et tout le monde devient fou. Oui, mais là, ils tirent sur la corde, je trouve. Ils auraient pu nous en donner un petit peu plus, nous expliquer un petit peu plus, quoi. Donc, bon, j'étais un petit peu déçu par le truc. Je crois que les réactions étaient divisées. Il y avait des gens qui étaient complètement fous et excités par le truc, et puis des gens qui, comme moi, se disaient, bon, c'est pas grand-chose, quoi, finalement. Donc bon, on attendra d'en voir un petit peu plus. Il n'est pas impossible qu'il y ait une présence de Rockstar à la PlayStation Experience en décembre, un rendez-vous qui est désormais attendu par tout le monde et attendu par l'industrie en tout cas. Donc on verra s'ils en parlent un petit peu plus à ce moment. Le jeu est toujours prévu pour un très énigmatique printemps 2018. Donc on n'a pas de date plus précise que ça. Je voulais aussi mentionner le trailer de Hand of Fate 2. Si vous vous souvenez de Hand of Fate, c'est un jeu qui avait fait pas mal de bruit à sa sortie il y a 2 ans, c'était en 2015. Pardon, qui était un jeu où on mélangeait un jeu de cartes et des séquences de combat avec le système de Batman, Arkham. Vous savez, où on appuie spécifiquement pour donner un coup de poing à une personne et puis on enchaîne comme ça, un petit peu comme un jeu de rythme. Enfin bref, vous connaissez ce système de combat. Et il avait vraiment plu à beaucoup de gens. Là, le trailer, il est sorti de nulle part. Le jeu sera disponible très très vite, je crois. C'est alors attendez, je vais pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est au mois de novembre. Attendez, je vais re-regarder le trailer. Voilà, c'est le 7 novembre. Et le trailer fait 40 secondes. Il a l'air d'être fait un petit peu à la va-vite, j'avoue. Mais bon, le jeu a eu tellement bonne presse. Et puis, c'est un jeu fait par une petite équipe. Et c'est un jeu bon marché, c'est 25€. Que on peut garder quand même un œil dessus. Et mais je trouve qu'il mériterait un petit peu plus de communication pour mettre à profit le succès du premier. C'est un petit peu dommage qu'il fasse ça avec aussi peu de communication, quoi. Là, c'est juste bon. Le trailer est sorti, il est dispo dans un mois. Voilà, c'est tout. C'est avec les premiers jeux qui ont un succès comme ça, souvent l'éditeur peut capitaliser, même un petit quoi, peut capitaliser et obtenir plus de presse pour le deuxième. Et là, c'est à mon sens peut-être que l'équipe est trop petite pour avoir un responsable de la com, un responsable PR qui puisse s'y consacrer à plein temps quoi. C'est possible. En tout cas, faudra garder un œil dessus. Oui, parce qu'il a aussi des systèmes, il a plus de personnages, plus d'armes, etc. Enfin bref, évidemment, c'est un 2, quoi. Mentionnons aussi Fortnite Battle Royale, qui est, vous savez, le mode Battle Royale, donc un petit peu copié de... carrément copié de PUBG, qui est en free-to-play. Donc le mode Battle Royale est en free-to-play. Fortnite est un jeu payant, bien sûr. Et grâce au mode Battle Royale, Fortnite a réussi à atteindre les 7 millions de joueurs, ce qui est quand même assez impressionnant pour ce jeu. Et ça, dans le même temps, Epic a publié un article sur le fait qu'ils vont faire bénéficier du moteur Unreal, ils vont faire ajouter des fonctionnalités au moteur Unreal avec les améliorations qu'ils ont créées pour le mode Battle Royale de Fortnite. Donc, tout le monde va en bénéficier. Il y a notamment le fait que le moteur puisse désormais gérer plus facilement une centaine de personnages présents en même temps sur la carte. Et évidemment, ça fait écho à la discussion qu'on a eue la dernière fois, et d'ailleurs depuis un petit peu plus de temps même, sur les producteurs de PUBG, de PlayerUnknown's Battleground, qui avait des mots assez choisis pour Epic avec leur développement du mode Battle Royale de Fortnite, où ils exprimaient après une communication assez désastreuse le fait que ah bah oui, mais c'est pas tant pour le mode Battle Royale, on comprend que les gens vont copier ce mode et évidemment on ne prétend pas qu'on a la paternité de ce mode. Ça faisait un petit peu, je me rattrape aux branches après leur déclaration tonitruante de quelques jours avant. Et donc, ils disaient, oui, mais par contre, on est inquiet parce qu'on a contribué au moteur Unreal. Spécifiquement, ils mentionnaient cette histoire de 100 personnages disponibles en même temps. Et on a peur que du coup ils utilisent les améliorations pour leur jeu, mais qu'ils ne les rendent pas disponibles pour le moteur en général. Donc ça serait de la concurrence déloyale. Bon, encore une fois, comme on le disait, moi je trouve que ça fait vraiment se rattraper aux branches et qu'ils n'ont aucune raison. Enfin, aucune raison. Oui, ils sont, c'est dur pour eux d'avaler la pilule que les gens avec qui ils travaillent sortent un jeu concurrent à leur propre jeu. Mais bon, justement, c'est le jeu dans le jeu vidéo et dans les entreprises artistiques. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de copyright sur les concepts de jeu, sur les idées de gameplay. Donc, c'est ça. Bref, on en avait parlé la dernière fois avec JK. Mais là, c'est clairement une réponse que fait Epic à cette préoccupation là, genre non, vous inquiétez pas, tout se passe bien, on ne va pas faire de concurrence déloyale, ce qui, enfin évidemment, ils avaient aucune raison de d'handicaper leur moteur, c'est une énorme partie de leur business. Mais donc voilà, je crois que avec cette réponse en plus, Bluehole, donc l'éditeur de PUBG, va tranquillement arrêter ses sorties publiques assez malheureuses, négocier avec Epic s'il y a quelque chose à négocier dans le secret de leurs négociations, et continuer à profiter de leur succès absolument invraisemblable avec PUBG, qui évidemment n'est pas entamé par le succès d'autres du même type. Rappelons que le mode Battle Royale de Fortnite est free-to-play. Alors que PUBG est payant. Donc évidemment, l'arrivée de nombreux joueurs sur Fortnite est pas si surprenante. Et en plus, le jeu a l'air sympa, il est beaucoup plus coloré, un petit peu cartoon, donc c'est un petit peu plus peut-être accueillant pour des débutants que l'atmosphère très, on dit en anglais, gritty, donc un petit peu dur et sévère de PUBG, où c'est vraiment, bah voilà, c'est Battle Royale violent, quoi. Alors que là, Fortnite, c'est un petit peu plus mignon. Bon, je vous avoue que j'ai d'autres choses à faire que d'aller essayer Fortnite, parce qu'il y a tellement de jeux en ce moment que, voilà. Mais il y a certaines personnes qui seront peut-être intéressées, et clairement, des gens qui sont curieux du phénomène Battle Royale, qui n'ont pas envie d'investir dans les 30 euros, je crois, de PUBG, et qui se disent, bon, je vais installer Fortnite, on va voir ce que ça donne. Donc clairement, ça peut aussi être intéressant pour Epic, ils font pas ça par simple bonté, la bonté de leur cœur, quoi, pour offrir un truc aux joueurs. C'est un truc pour attirer évidemment les joueurs aussi. Un petit tour du côté des Nostalgia Box, des boîtes de jeux vidéo à nostalgie, avec les Super NES classiques, et enfin Super NES Mini et NES Mini. Et ben évidemment, il fallait s'y attendre avec le succès de ces consoles Nintendo. Il y a d'autres qui se précipitent sur ce segment, et notamment on a vu un Commodore 64, comment il s'appelle, Commodore 64 Mini, c'est 64 Mini, qui, alors comment dire, pourtant Dieu sait que j'étais fan de Commodore, hein. J'avais un Amiga absolument que j'adorais, et j'ai une nostalgie vraiment forte pour cet Amiga, et bon, pas directement pour le Commodore, mais enfin c'est un petit peu la même chose. Je vois pas beaucoup de gens acheter cette machine, quoi. Vous voyez, vous, acheter un Commodore à brancher en HDMI, enfin déjà, bon, il y aura évidemment pas de disquette, je pense, à mettre dans le Commodore, mais surtout, enfin, si je disais qu'une NES Mini, on allait y jouer 10 minutes et c'est tout, enfin, un Commodore 64, c'est marrant, effectivement, pendant un quart d'heure, mais... Enfin bon, moi je vois pas vraiment ce truc avoir un succès au-delà de quelques... Ça coûte 70 pounds, donc j'imagine, bon, on va dire 70 euros, pour être gentil. Bon, peut-être que quelques personnes voudront l'acheter pour l'avoir. Il faudra voir aussi comment ça fonctionne au niveau de la programmation, etc. Mais enfin, tous... Bon, vous connaissez mon avis sur ce type de box, mais là vraiment... si la Super NES, on le disait aux épisodes précédents, la Super NES, on peut comprendre parce que c'est vraiment des jeux qui ont encore de l'intérêt aujourd'hui et que les jeux sont sympas à jouer. Là, je pense que le Commodore 64, on n'est pas du tout sur le même registre que de fanitude que Nintendo, quoi. Et autre Nostalgia Box. C'est Atari qui a donné plus de détails sur leur Atari Box. Et là, alors, si j'étais dubitatif sur la Commodore 64, alors, qu'est-ce que ça va être, cette Atari Box ? C'est en fait un PC sous Linux avec un émulateur Atari qui aura des jeux, mais qui sera également ouvert comme PC sous Linux avec un processeur AMD, AMD Radeon, qui va coûter... 249 à 299 dollars. Donc déjà, de quoi parle-t-on, quoi? Alors oui, c'est un PC qui coûte 249 dollars, mais enfin, à ce prix-là, vous vous doutez bien qu'il va pas pouvoir faire tourner grand-chose. Si vous voulez mettre des jeux, vous pouvez toujours mettre Steam sous Linux et bénéficier du quart des jeux que vous auriez sur PC. Donc, pourquoi pas? Mais enfin, faut pas s'attendre à faire grand-chose dessus non plus. Et puis en plus, des jeux Atari VCS 2600. Alors là, vraiment, si on dit qu'on va jouer que 10 minutes aux jeux de la NES classique, les jeux Atari VCS, moi je les aimais beaucoup quand j'avais 10 ans. Mais enfin, voilà quoi, il faut bien comprendre que on n'est plus du tout... Les jeux ont évolué depuis et ça va être vraiment... jouer à combat avec les tanks, ça va être marrant 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. Et alors attendez, je vous ai même pas dit le meilleur. Le truc, c'est que non seulement il sera, et ça coûtera 249 à 299 dollars en fonction de la config, mais en plus, bon, ça sera livré fin du printemps 2018, a priori, et... Tenez-vous bien, c'est en financement crowdfunding sur Indiegogo. Ça veut dire que ils vous demandent de d'acheter le truc, de payer le truc 6 mois, 1 an avant la disponibilité, en espérant que ça se passe bien, etc., et que vous chopiez votre truc. Enfin, je comprends même pas comment ils espèrent financer leur projet, quoi. Ça me paraît. Là encore, si je me trompe et que vous pensez que le projet est cohérent, venez me le dire sur les notes de l'émission. Mais enfin, là vraiment, je vois pas, je comprends pas quoi. C'est vraiment les gens d'Atari, les gens qui ont la propriété de la marque Atari, qui sont dit waouh, attendez, la nostalgie, ça marche. Il y a un petit peu de brousouf à se faire. On va sortir une Atari Box. Qu'est-ce qu'on en fait? Waouh, tout le monde fait des petits trucs à 50 dollars. En plus, on en a déjà eu des trucs comme ça. On va faire autre chose, on va faire un truc... Enfin bon, franchement, je comprends bien sûr qu'ils peuvent pas mettre Windows, et on voudrait pas forcément Windows, parce que... Mais enfin, si c'est un truc pour jouer, soyons honnêtes, j'aime bien Linux, mais c'est pas une machine sous Linux qui va vous proposer la meilleure. Pourquoi aller payer 300 dollars, même si un PC à 300 dollars, c'est pas trop cher? Enfin bon, bref, je suis pas vraiment... client de cette, enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de clients pour cette Atari Box, surtout en version crowdfunding, quoi. À la limite, s'il la vendait 300 dollars, comme ça demain, déjà, je pense qu'il y aurait pas beaucoup de clients, mais enfin, en crowdfunding, qui va aller mettre 300 dollars ou 250 même là-dedans? Bon, encore une fois, si vous pensez que je me trompe, n'hésitez pas à venir me le dire sur Twitter ou sur, ou ailleurs. Quelques petits mots sur Blizzard, un petit corner Blizzard rapide. D'abord, il n'y aura pas d'annonce Diablo à la BlizzCon. Ils nous l'ont précisé pour éviter qu'on soit déçus et qu'on ne dise que la seule chose qu'on ressorte de la BlizzCon, ça soit « Ah bah, il n'y avait pas Diablo, on est déçus ». Voilà, donc ils nous le disent à l'avance. Ça, c'est de la communication faite de manière cohérente. Par contre, on attend évidemment... une extension, l'annonce de la nouvelle extension de World of Warcraft pendant cette BlizzCon qui se tient, rappelons-le, le 3 et le 4 novembre aux États-Unis à Anaheim. Donc, nouvelle extension World of Warcraft, ça a été confirmé à peu de choses près par Ion Hazzikostas, le game director, dans une vidéo récente. Et on a aussi une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée à l'application Blizzard, l'application Battle.net, qui est une fonctionnalité de groupe. Alors, deux fonctionnalités en fait. Le mode apparaître hors ligne qui arrive enfin, des années et des années après qu'il ait été promis. Je travaillais encore chez Blizzard quand il a été promis, donc je m'en souviens. Et il est enfin disponible. Rendez-vous compte, les merveilles de la technique, ça fonctionne enfin. Et ils ont aussi une fonctionnalité de groupe, donc vous allez pouvoir créer des groupes pour vos clans, vos guildes, etc. Ce qui, en plus de l'arrivée de l'application sur mobile, donc l'application de chat qui est disponible sur mobile, pardon, l'application Battle.net chat est disponible sur mobile, c'est du coup cohérent d'avoir une application de chat si on peut avoir des groupes. Jusqu'à maintenant, il y avait que le chat tout court de personne à personne, mais si on a des groupes, eh ben on peut avoir, en fait c'est une sorte de Discord hyper simple qui peut convenir à certaines personnes qui justement ont pas envie d'utiliser un outil externe. Évidemment, Discord a toujours de très très beaux jours devant lui parce que c'est un outil beaucoup plus puissant. Mais au moins, il y a une fonctionnalité basique qui est dans l'application Battle.net désormais. Alors, c'est uniquement en bêta et uniquement sur la région des US pour ces fonctionnalités de groupe et de chat. Il y a un petit tab social qui apparaît dans l'application Blizzard, l'application Battle.net. Donc, j'imagine que ça va assez vite arriver en Europe et sortir de bêta. Mais pour le moment, c'est uniquement là-bas. Puis on a des profils un petit peu plus détaillés. On peut choisir son icône, etc., dire à quel jeu on joue, etc., etc. Donc bon, c'est en train d'arriver et c'est les fonctionnalités sociales des différents jeux Blizzard qui s'étendent, ce qui est somme toute assez logique que ce genre de choses soient incluses dans l'écosystème de Blizzard, puisque désormais ils ont tellement de jeux et puis ils incluent Destiny 2 qui arrive bientôt aussi, etc., etc. Donc bon, c'est une fonctionnalité en plus. Encore une fois, ça va pas non plus venir couper l'herbe sous le pied de Discord, puisque Discord est évidemment beaucoup plus vaste, il est indépendant et il offre des fonctionnalités beaucoup beaucoup plus poussées. Mais il n'empêche, c'est une fonctionnalité supplémentaire intéressante pour Battle.net, et on voit que Blizzard s'attaque à l'aspect social de manière un petit peu plus sérieuse. Et du coup, en plus des groupes, on imagine qu'il y aura aussi. Enfin, on a déjà la possibilité de créer des chats vocaux. Donc là, ça va faciliter les choses avec les groupes. Je pense également. Et je parlais de mobile. Il y a une news rumeur slash leak. Décidément, après la toux, j'éternue. C'est le podcast de la maladie là. Donc, il y a une news qui est sortie par une offre d'emploi sur le site d'offre d'emploi de Blizzard, et cette offre d'emploi a été supprimée très vite, ce qui fait que tout le monde s'est dit oula, là il y a un truc en fait qui est peut-être un petit peu fiable, parce que évidemment ça devait être une erreur. Enfin, je vous passe le suspense. C'est une offre d'emploi pour un jeu qui n'a pas encore été annoncé, qui serait un MMORTS mobile. Donc, je vous parlais de l'application de chat mobile de Battle.net. Eh ben, ça marcherait peut-être en coordination avec ce genre de développement. Mais en tout cas, ils recherchent quelqu'un pour ce qui serait un MMORTS mobile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire MMORTS? Là, je vous avoue que je sais pas très bien. On parle bien sûr, on pense à Clash of Clans ou peut-être même Clash Royale, ce genre de truc où on construit une base. Mais oui, là on construit une base et c'est du RTS, mais c'est pas vraiment MMO dans le sens où il y a plusieurs personnes qui sont ensemble sur la même carte. Là, on a chacun son instance de la carte, on la construit comme on veut, puis on va attaquer, défendre ensuite quelqu'un d'autre. Mais je pense pas qu'on puisse considérer que c'est vraiment du MMO. Mais alors là, qu'est-ce que ça veut dire MMORTS? Est-ce qu'on a un coin de la carte où on va construire sa base, gérer ses ressources, etc.? Alors, aucune idée, mais je serais évidemment très curieux d'en savoir plus. Il est très peu probable que ce genre de choses soit annoncé à la BlizzCon. A priori, c'est toujours possible, hein, mais on pense pas qu'on aura d'annonce de nouveaux jeux à la BlizzCon. On verra. Mais bon, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez curieux. MMORTS mobile. Voilà. Ensuite, vous en faites ce que vous voulez. Il est tout à fait possible que ça soit un projet. Peut-être même que c'est une erreur, hein, que c'était pas exactement ça qu'il voulait dire. Plus probablement, c'est quelqu'un qui a oublié de supprimer, parce qu'ils ont des centaines d'annonces sur le site, vraiment, hein, des centaines. Donc, il est possible qu'un pauvre manager aux ressources humaines et dans son batch de dizaines d'annonces qu'il devait faire, oublié de supprimer un truc ou modifier le titre de l'annonce quand il la mettait en ligne. Il est aussi possible que ça soit simplement un projet qu'ils sont en train de tester et que ça donnera rien et que donc il verra jamais le jour. Bon. On ne sait pas, mais voilà, l'annonce était en tout cas publiée et sur le site, donc c'est au moins cet aspect qui est véridique. Et enfin, je voulais mentionner le fait que les choses continuent à... Alors j'allais dire évoluer, mais c'est plutôt ne pas évoluer entre Ubisoft et Vivendi. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait une situation qui était très volatile et on se demandait quand, vraiment, c'était une question de temps pour que Vivendi aille gober le reste de Ubisoft. Et entre-temps, bah, comme on l'a dit plusieurs fois, l'action d'Ubisoft a pris énormément de valeur. Ils ont pris 70% en un an, ce qui fait qu'une opération, une offre publique d'achat coûterait très très cher, enfin beaucoup plus cher en tout cas, à Vivendi. Et du coup, au-delà des bisbilles qu'il y a au conseil d'administration avec... les responsables de Ubisoft et notamment les Guillemots qui voudraient avoir la possibilité d'offrir des stock options à leurs employés, mesure qui est bloquée par Vivendi. Enfin bon, ils s'engueulent un petit peu là-dessus, mais surtout on est dans une situation où Vivendi, ça leur coûterait très cher de faire une OPA, et si jamais ils décident de renoncer et de revendre leurs actions, eh ben ils font une opération financière qui est hyper positive, puisque le cours de l'action a pris tellement en un an. Donc ils feraient une très belle opération financière. Donc ça veut pas dire qu'ils vont complètement renoncer à leur OPA, mais c'est quand même moins certain que ça ne pouvait l'être il y a quelques mois de ça encore, ou un an encore. Donc est-ce que Ubisoft est sorti d'affaires? On sait pas trop, mais en tout cas, ils sont peut-être moins, le danger est moins immédiat qu'il ne l'était il y a une année ou 18 mois. Donc moi je dirais c'est une bonne nouvelle, comme vous l'avez compris, j'ai quand même une certaine tendresse pour Ubisoft, même si c'est une énorme boîte. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette boîte-là. Bon bah écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme je le disais au début, que vous m'excuserez ces toux et ces éternuements intempestifs. Si vous voulez avoir un petit peu plus de Patrick dans votre vie, vous pouvez aller me suivre sur Twitter ou sur Facebook. Je suis NotPatrick sur les deux plateformes, donc twitter.com/NotPatrick ou facebook.com/NotPatrick. Vous pouvez également trouver cet épisode, oui, et d'autres sur le site frenchspin.fr. Vous retrouverez notamment, par exemple, le Rendez-vous Tech, qui est un podcast sur l'actualité technologique. Et si vous voulez donner un petit coup de main au Rendez-vous Jeu, bah c'est très simple, vous pouvez faire plusieurs choses. Le partager sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter, sur en parler à vos amis, en fait, dire bah le Rendez-vous Jeu, c'est un podcast sympa pour les jeux vidéo, ça vous tient au courant de manière distrayante et sympathique. Enfin, vous savez ce que vous pouvez dire. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur iTunes ou sur votre catalogue de podcast et laisser une review avec des étoiles. Ça nous aide toujours également, bien sûr. Mais d'une manière générale, le bouche à oreille, c'est quand même hyper positif. Donc dites à vos amis que vous aimez le Rendez-vous Jeu et qu'ils devraient l'écouter aussi. Ça nous aide toujours beaucoup, évidemment. Bah voilà pour cet épisode. On est sorti un petit peu en avance. Donc le prochain, je pense que je vous parlerai un petit peu de Shadow of War, de l'ombre de la guerre, la suite de Shadow of Mordor, qui est l'un des jeux que j'attends avec impatience pour cet automne. Et il sort dans quelques jours à peine. Donc je me précipiterai dessus, évidemment, et on aura bien sûr beaucoup d'autres choses dont on vous parlera dans le prochain épisode qui arrivera dans environ 15 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant cette petite heure et je vous donne rendez-vous donc à ce moment. Ciao à tous, plein de bises.